Jean chapitre 17, versets 17 et 19. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Bonjour, bonjour à tous, frères et sœurs. Chaque sabbat nous revient comme le saint jour de l'Éternel, mais aussi comme une aide de Dieu pour nous rappeler les choses que nous sommes en danger d'oublier ou de négliger. Et à cause de ces oublis, nous sommes en danger de fauter et de tomber dans la tentation. Parce que nous vivons dans cette grande heure de la tentation. La grandeur de la tentation dans laquelle le diable est plus que jamais à l'action pour faire presser sur les âmes ses tentations, pour faire tomber les âmes et écarter chaque individu des vérités sublimes pour ce temps dont nous avons terriblement besoin, mais qui sont, il le sait, notre seul échappatoire. Seul échappatoire de ce monde et seul moyen de salut. Et cela fait directement référence à ce que nous avions vu la dernière fois. Nous avons lu, vous vous souviendrez, dans ce psaume 57, que Dieu enverra du ciel aux pécheurs de la détresse qu'il invoque, et il enverra du ciel et nous sauvera, il enverra sa bonté et sa vérité. Donc vous vous souviendrez, si vous avez suivi, que nous avons bien vu l'importance de la vérité. Nous avons vu que lorsque nous dissocions la vérité de l'amour de Dieu, nous risquons, et nous d'ailleurs serons plongés dans les séductions de l'ennemi où le message unique et exclusif est celui de l'amour de Dieu sans la complémentarité de la vérité de Dieu. Et ce genre de message, si nous y sommes exposés, si nous nous y exposons ou si nous l'enseignons, nous plongera dans les stratagèmes de l'ennemi. Donc nous avons vu combien il était et combien il est important que nous prenions ce moyen de salut de Dieu tel que Dieu nous le donne, c'est-à-dire une association de l'amour, de la bonté, de la miséricorde de Dieu avec la vérité de Dieu. Et d'ailleurs, vous vous souviendrez que Dieu dit dans le psaume, voici, je vais envoyer et je vais vous sauver, Dieu enverra des cieux et nous sauvera. Et ensuite, il dit, il enverra sa bonté et sa vérité. Et dans Jean 1, chapitre 17, nous lisons, juste après cette longue description de Jésus qui est la parole de Dieu, nous lisons que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce, la bonté de Dieu et la vérité sont venus par Jésus-Christ. Et Jésus disait lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus disait, je suis le chemin, je suis quoi d'autre? La vie, je suis quoi d'autre? Je suis la vérité. Et nul ne vient au Père que par cette vérité que je suis et que j'incarne. Je suis l'incarnation de la vérité. Et qu'est-ce qui était écrit d'autre dans Jean chapitre 1, verset 1? Au début, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole était Dieu. Et qu'était cette parole? Qui était cette parole? Au verset 14, nous lisons, et la parole a été faite chair. Et la parole a été faite chair et a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Dieu enverra des cieux et nous sauvera. Il enverra sa bonté et sa vérité. Et la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc nous avons vu que la vérité est primordiale, que si nous écoutons des enseignements où il y a beaucoup de vérité mais un peu d'erreur, nous allons directement à l'encontre du témoignage de la parole de Dieu et des conseils spécifiques de l'esprit de prophétie. Parce que l'esprit de prophétie nous dit, Dieu a confié toutes ces vérités à son peuple qui lui obéisse, mais que cela ne plaît pas à Dieu lorsque nous allons écouter ceux qui ont quelques vérités, mais qui n'ont pas toutes les vérités. Dieu dit à ses enfants, vous n'avez pas besoin d'aller écouter et ramasser un peu de vérité ici et là, je vous donne tout auprès de mon Église. Ensuite, maintenant, la dernière fois, avant de conclure, nous sommes brièvement dirigés, notre attention a été brièvement dirigée vers ces paroles de Jean chapitre 8, vers lesquelles on veut revenir, parce qu'elles contiennent un message dont on a vraiment fortement besoin. Jean chapitre 8, versets 31 à 36. Jésus dit donc aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes véritablement mes disciples et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment donc, dis-tu, vous serez affranchis? Jésus leur répondit, en vérité, je vous dis que quiconque s'adonne au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, mais le fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez véritablement libre. Ce sont des belles paroles dont il nous faut tirer la substance première pour ne pas nous tromper quant à notre compréhension de la parole de Dieu, pour ne pas nous séduire nous-mêmes en nous donnant l'impression que nous avons compris, que nous avons relevé tout le message qui est compris dans ces quelques versets que nous venons de lire. Jésus dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes véritablement mes disciples. Si vous demeurez dans ma parole, là vous êtes vraiment mes disciples. Et en continuant, en persévérant dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais attention, parce que la vérité qui nous affranchira ici, la liberté dont Jésus parle, ce n'est pas simplement une liberté doctrinale, une liberté de l'erreur ou une liberté de mauvaise conception vestimentaire ou de forme. Il s'agit de la liberté du quoi ? De la liberté du péché. Car, comme il l'a dit, quiconque s'adonne au péché est esclave du péché. Donc Jésus, il présente ici quelque chose qui suscite et qui invoque de notre part une attention qui est suffisante pour mettre à l'épreuve et permettre que nos affections et nos habitudes soient mises à l'épreuve par la parole de Dieu, soient mises en examen par ces paroles de Jésus. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, attention, parce que quiconque, vous dites que vous êtes libre, vous dites que vous n'avez jamais été esclave. Il ne mentionne même pas les 400 ans en Égypte. Il ne leur parle même pas de cela. Il aurait très bien pu. Il aurait pu dire, mais vous, votre mémoire, elle est vraiment courte. Les 400 ans des Hébreux en Égypte, ils n'ont pas été esclaves là-bas. Il ne parle pas de ça. Jésus dit, vous voyez comment la manière de, pas simplement de raisonner, mais de présenter, de parler au nom de Dieu est si spécifique de Jésus-Christ. Il aurait pu leur lancer des missiles de rétribution logique, mais il ne l'a pas fait. Mais à la place, il vise tout droit sur le cœur et il dit, en vérité, je vous dis que quiconque s'adonne au péché est esclave du péché, au cœur du problème. Vous pensez que vous êtes libre, vous avez l'impression d'être libre, mais si vous vous adonnez au péché, vous êtes esclave du péché. Vous êtes esclave. Et donc, vous avez bel et bien besoin d'être affranchi. D'où la nécessité de la vérité. Vous comprenez maintenant, on est en train de sonder profondément dans la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on a besoin de prier. Et je prie que le Saint-Esprit puisse agir sur nos cœurs de manière puissante, d'une manière que aucun homme ne peut faire. Seul le Saint-Esprit peut amener au cœur la parole de Dieu. Un homme ne peut pas le faire. Quelque éloquent que l'homme puisse être, il ne peut pas faire le travail que seul le Saint-Esprit peut faire. Et donc, quand vous regardez, il dit, si vous vous adonnez au péché, vous êtes esclave. Vous êtes esclave. Mais moi, je viens pour vous affranchir. Et pas simplement d'une manière théorique, pas simplement d'une manière sentimentale, mais d'une manière qui, qui suscite et qui nécessite à la fois l'activité intelligente et l'activité affective de mon esprit et de mon cœur. Donc il dit, le Seigneur nous dit, oui, il dit, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, mais le fils, il demeure toujours, lui, il demeure toujours, lui, il est toujours fils. Les hommes ne peuvent pas vous donner la liberté par la paille qu'ils vous donnent. Vous avez déjà remarqué que cela, que vous essayez de trouver une satisfaction, un certain soulagement en écoutant ce que les hommes vous disent, mais si eux-mêmes sont esclaves du péché, esclaves de l'erreur, qu'ils ne sont pas dans la pleine lumière de Jésus-Christ qui est la pleine vérité, eh bien, que vont faire ces hommes avec leur paille? Ils ne vont pas vous nourrir, ils ne vont pas vous donner du froment. Et comme il s'est écrit dans Jérémie, qu'est-ce que la paille a à voir avec? Qu'est-ce qu'a la paille avec le froment? Comment peut-on comparer les deux? Il n'y a pas lieu de les comparer. Et donc, l'esclave, les hommes qui sont esclaves, si je dépends de ce que les hommes disent, des paroles des hommes, je suis esclave. Et ils ne m'affranchissent pas, mais lui dit, moi, je reste toujours fils dans la maison de mon père. Et moi, si je vous affranchis par la vérité que je suis, alors vous serez véritablement libre. On revient au début, il disait, si vous demeurez dans ma parole, alors vous êtes véritablement mes disciples et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, si le Fils nous rend véritablement libres, comment est-ce que cela se passera? Est-ce que il le fera indépendamment de mon activité personnelle, de mon engagement, de mon implication dévouée et fervente à l'activité dans laquelle il m'appelle? Vous voyez bien, il dit, si vous demeurez dans ma parole, alors toutes ces choses qu'il a dites après s'en suivront et seront un vrai résultat tangible, concret. Donc, si vous êtes esclave, vous n'êtes pas libre. Et si vous n'êtes pas libre, alors c'est que la vérité ne vous a pas affranchi. Et en effet, seuls ceux que le Fils affranchit sont véritablement libres. C'est ce que nous voulons explorer maintenant. Par quels moyens et dans quel processus est-ce que le Fils va pouvoir nous affranchir? Comment est-ce que cela se passe en réalité? Pas simplement dans la vision étroite de ces paroles-là, mais comment est-ce que la parole qui est Christ exprime ce qu'il a dit ici? Allons-y, continuons dans cette recherche magnifique sur ce sujet indispensable pour nous en ces derniers jours. Allons dans Jean chapitre 17. Dans Jean chapitre 17, vous avez là Jésus qui, dans sa prière d'intercession sacerdotale, il priait au Père et il disait ces choses. Nous voulons lire le verset 3. Je vais simplement lire à partir du verset 1. Pour le contexte. Jésus dit ces choses aux disciples dans le chapitre 16, puis levant les yeux au ciel, il dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Or, c'est ici la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. C'est ici la vie éternelle, a dit Jésus. Que mes disciples, ce que tu m'as donné, ils te connaissent et qu'ils connaissent qui? Et qu'ils connaissent Jésus-Christ que tu as envoyé. Et ensuite, il prie, il continue de prier pour ses disciples que le Père lui a donné et qu'il a gardé en son nom et il dit, ils ont gardé ta parole, etc. Et il dit verset 15, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. Verset 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Est-ce que vous êtes à l'écoute? Est-ce que nous sommes à l'écoute? Il commence, Jésus dit, c'est ici la vie éternelle, qu'ils connaissent toi le Père et moi que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et ensuite il dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Souvenez-vous, Jésus est la vérité aussi. Et il est la parole. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Et maintenant, il dit, voilà, il dit, il prie, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Et ensuite, il dit, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Il y a un échange de pensées ici que l'on veut relever. La vie éternelle, la liberté éternelle, dont il parlait dans Jean chapitre 8, c'est connaître Dieu. Mais comment? Comment est-ce que nous connaissons Dieu? Et Jésus-Christ qui l'a envoyé. C'est connaître Dieu dans la révélation unique de lui-même en Jésus-Christ et dans l'exemple de sanctification de Jésus dans cette expérience humaine qu'il a faite dans la même nature humaine que nous. Ça, c'est juste un résumé. Mais on veut explorer comment est-ce que nous pouvons qualifier cela. Allez avec moi dans Hébreux, chapitre 5. La réalité, frères et sœurs, c'est que si nous en restons à la théorie de cela, vous et moi, nous n'en serons pas profités. Vous et moi, nous n'en serons pas transformés. Mais comme c'est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18, nous tous qui, à visage ouvert, contemplons comme dans un miroir, allons-y brièvement, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, ainsi nous tous, 2 Corinthiens 3, 18, ainsi nous tous, qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire comme par l'Esprit du Seigneur. Donc nous avons besoin de contempler, comme dans un miroir, cette gloire. Parce que vous vous souviendrez, nous avons lu dans Jean chapitre 1 que Jésus a manifesté quelque chose quand il est venu dans la chair. Est-ce que vous vous souvenez? Et la parole a été faite chair et a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. C'est exactement les mêmes mots, vous avez remarqué? Nous avons contemplé sa gloire, disait l'apôtre Jean, au nom de tous les autres disciples de Jésus. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Qu'est-ce qu'il a dit Jésus? Or c'est ici la vie éternelle, quoi? Qu'ils te connaissent, oui, toi le seul vrai Dieu. Mais comment vont-ils te connaître? Qui va révéler? Qui a révélé? Et qu'a dit Jésus? Toutes ces choses sont reliées, vous voyez? Qu'a dit Jésus? Il a dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Donc la mission de Jésus, c'était de glorifier le Père, de représenter le caractère du Père. Et c'est ici la vie éternelle, que nous connaissions le seul vrai Dieu, notre Père céleste, et nous ferons cette réalisation de notre Père en connaissant Jésus-Christ qui l'a envoyé. Et dans le lien avec cela, il dit pas simplement c'est ici la vie éternelle qui te connaissent d'une manière éphémère, d'une manière étrange, d'une manière incertaine, d'une manière qui ne dépend que de nos perceptions personnelles. Il ne dit pas cela, il dit sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Et je me sanctifie moi-même afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Est-ce que c'est possible pour nous d'être sanctifiés par la vérité sans un engagement particulier qui est directement en rapport avec ces paroles-là de Jésus au verset 19? Je me sanctifie moi-même pour eux. Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Est-ce que je peux étudier le sujet de la sanctification sans plonger mes regards et contempler cette gloire que Jésus est venu révéler du Père? Dans Hébreux chapitre 5, versets 7 à 10, nous avons la continuité de notre exploration de cette gloire. C'est lui, Jésus, Christ, qui, pendant les jours de sa chair, ayant offert avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été délivré de sa crainte, bien qu'étant fils, a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes et ayant été rendu parfait, il est devenu l'auteur du salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Qu'est-ce que c'était? Son activité au sujet de laquelle il disait « Je me sanctifie moi-même ». Pendant les jours de sa chair, ayant offert avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications au Père, bien qu'étant fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Est-ce que nous lisons ici une sanctification, une activité où Jésus s'est lui-même sanctifié par la vérité? Vous vous souviendrez que lorsqu'il était appelé à la chair dans les synagogues, il ouvrait le rouleau de la loi et il lisait de la loi. Jésus était aussi bien que vous et moi sanctifié par la vérité. Parce que quelle était sa réponse? Quelle était sa réponse? Quelle était la réponse de Jésus à la tentation? Est-ce que il dépendait de la vérité pour son salut? Parce que réfléchissons bien, frères et sœurs. Si Jésus n'avait pas résisté à la tentation, est-ce que il serait notre sauveur? Il serait pécheur, n'est-ce pas? Il serait pécheur comme vous et moi. Mais non. Il est écrit ici que bien qu'étant le Fils de Dieu, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Combien de choses Jésus a souffertes? Pourquoi les a-t-il souffertes? Pour apprendre l'obéissance. Avez-vous besoin d'apprendre l'obéissance? Et donc, lorsque nous souffrons, avons-nous une personne vers laquelle nos affections peuvent se diriger? Et ce n'est pas tout. Ayant été rendu parfait, ayant appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et ayant été rendu parfait, il est devenu l'auteur du salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. L'auteur, il est devenu cela. Il avait un cheminement de sanctification. Il disait, je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Par la vérité de ma sanctification. Il n'y a pas d'autre moyen. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il a dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il trouvera de la pâture, il trouvera du froment, il trouvera de quoi manger. Je le nourrirai spirituellement, pas simplement cela. Il entre par moi, je suis la vérité, je me suis sanctifié par la vérité. Impressionnant, n'est-ce pas? Jésus était, durant la dispensation de l'Ancien Testament, d'une manière épisodique et d'une manière cachée à travers la nuée, auprès des Hébreux, mais quand les temps ont été accomplis, il est venu dans la chair, et il a lui-même été sanctifié, il s'est lui-même sanctifié de manière active par la vérité qu'il a inspirée et qu'il a déclarée lorsqu'il aidait les enfants d'Israël et les enfants de Dieu depuis le début de l'humanité. et ayant été rendu parfait maintenant dans cette, pendant les jours de sa chair, pendant les jours qu'il a vécu dans sa chair, ayant offert des grands cris, avec de grands cris et de grandes larmes, des prières et des supplications au Père, et ayant été rendu parfait à travers tout cela, il est devenu l'auteur du salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. Il disait quoi aux Juifs? Qu'est-ce qu'il disait aux Juifs qui avaient cru en lui? Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes véritablement mes disciples et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il est devenu l'auteur du salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent, tous ceux qui demeurent dans sa parole, tous ceux qui demeurent dans le cep. Ça donne de l'ampleur à toutes les autres paroles de Jésus, toutes les autres paroles concernant Jésus dans la parole de Dieu. Et cela nous permet d'avoir quelque chose, quelqu'un vers qui courir. Quelqu'un vers qui courir. Est-ce que vous pouvez courir vers une idée? Est-ce que vous pouvez courir vers une simple croyance? Est-ce que cette croyance m'est tellement réelle que lorsque la tentation est au plus fort, alors ma foi peut se saisir de Jésus. Vous vous souvenez, il y a des paroles au sujet des enfants d'Israël où Dieu dit « Oh, ta bonté est comme la rosée du matin. » Et l'esprit de prophétie commente sur ces paroles et dit qu'il faut que notre repentance ne soit pas comme la rosée du matin. Une repentance dont il faut se repentir. Une repentance qui est stimulée par des émotions, simplement, mais qui n'est pas stimulée et qui ne naît pas d'une véritable décision d'obéir à Jésus-Christ. Parce qu'il a été fait, il est devenu l'auteur du salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. Mais il est l'auteur. Mais il est l'auteur pour ceux qui lui obéissent. Donc je ne suis pas l'auteur de mon propre salut, mais si je lui obéis, si je mets ma volonté du côté de la volonté de Dieu, il va faire prospérer nos efforts. Parce que c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir, vous vous souviendrez, dans Philippiens. Chapitre 2. Et j'aimerais lire des paroles de l'esprit de prophétie ici pour nous aider à bien discerner, à bien nous représenter cette assistance réelle de Jésus qui est venu faire cela et vivre cela dans cette chair, dans les jours de sa chair. Quel genre de chair? Nous lisons avant cela dans Hébreux chapitre 4, versets 15 à 16. Au sujet de Jésus, encore une fois, nous lisons « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos infirmités. Au contraire, il a été tenté en toutes choses comme nous, mais sans péché. Il a été tenté en toutes choses comme moi, comme nous, mais sans péché. Et donc, à cause de cela, nous disons que il peut compatir à nos infirmités. Verset 16. allons donc avec confiance au trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans le temps convenable. Quel est le temps convenable? Le moment où vous avez besoin de Dieu plus que jamais. C'est à ce moment-là que il nous faut aller avec confiance au trône de la grâce. Avec confiance que quoi? Avec confiance que mes affections seront satisfaites en Jésus-Christ. Pas simplement pour ça, avec confiance qu'il me donnera la victoire, avec confiance que mes affections, qu'il est digne de mes affections. Allons donc avec confiance au trône de la grâce, avec confiance que Dieu a promis de recevoir le pécheur contrit. Avec confiance que Dieu n'a pas besoin que j'amende mes voies avant de revenir à lui pour être pardonné. Avez-vous déjà fait cela? Vous attendez de pouvoir, d'avoir pu modifier vos voies, d'avoir pu vous réformer quelque peu avant de pouvoir être accepté auprès du Seigneur? Non. Il est un souverain sacrificateur qui peut compatir à nos infirmités parce qu'il a été tenté en toutes choses comme nous, mais sans péché. Allons donc avec confiance au trône de la grâce, afin d'obtenir quoi? Miséricorde. Parce que quand vous venez à Dieu, étant tenté, il se peut que vous ne soyez pas sans tâche. Donc, j'ai besoin d'avoir confiance que il peut à la fois me donner miséricorde et me donner grâce pour vaincre dans le temps convenable. Combien ces choses sont-elles importantes? Combien ces choses sont-elles indispensables? C'est pour cela qu'il faut absolument que ces choses soient pour vous et moi plus qu'une théorie, plus qu'une croyance, plus qu'une doctrine. Il faut que par la foi, je me saisisse de la réalité de Jésus. Lisez avec moi, ou plutôt, suivez avec moi ce passage de l'Esprit de prophétie que l'on trouve dans le commentaire biblique à la page 1088. Nous lisons ceci. Il est écrit au sujet de Christ que, étant en agonie, il priait plus instamment et il lui vint une sueur comme des grumeaux de sang qui tombaient sur la terre. Nous avons besoin de nous rendre compte de la vérité sur la nature humaine de Christ afin d'apprécier la vérité des paroles citées. Christ n'a pas pris sur lui une humanité apparente. Il a pris et il a vécu la nature humaine. Christ n'a pas opéré de miracle dans son propre intérêt. Il fut entouré d'infirmités, mais sa nature divine savait ce qui était dans l'homme. Il n'avait pas besoin qu'on lui en rende témoignage. Le Saint-Esprit lui fut accordé sans mesure parce que sa mission terrestre le nécessitait. La vie de Christ nous représente une nature humaine parfaite. Il fut dans la nature humaine précisément ce que vous pouvez être. Il prit nos infirmités. Il n'a pas seulement été fait chair, mais il a été fait dans une chair semblable à celle du péché. Ses attributs divins ne furent pas permis de soulager l'angoisse de son âme et ses douleurs physiques. La vie de Christ nous représente une nature humaine parfaite, mais pourtant, ses attributs divins ne furent pas permis de soulager l'angoisse de son âme ni ses douleurs physiques. Parce que quoi ? Il a été fait dans une chair semblable à celle du péché. Dans la même chair que vous et moi nous possédons. Et pas seulement cela, mais ayant été tenté en toutes choses comme nous, mais n'ayant pas lui-même commis le péché. Tenté en toutes choses comme nous, et tenté à la fois de l'intérieur et de l'extérieur. Parce qu'il a reçu une chair semblable à celle du péché, c'est-à-dire la chair de péché. La même, exactement la même, de manière qu'il puisse compatir avec mes infirmités et qu'il puisse encourager ma confiance pour courir à lui vers le trône de la grâce où il se trouve en tant qu'intercesseur et souverain sacrificateur, courir à lui dans le temps convenable, dans le temps nécessaire, dans le temps ou sans secours, mais indispensable. Il a pris, qu'est-ce que c'était ? Il a pris et il a vécu la nature humaine. C'est beau de le lire, mais qu'est-ce que ça veut dire en réalité ? Dans toute la nature choquante et flagrante de la nature humaine. Il a pris et il a vécu la nature humaine. Et qu'est-ce que cela est? Et quoi? Et donc, qu'est-ce que ça fait pour moi? Ça fait que il encourage nos cœurs à aller à lui avec confiance au trône de la grâce dans ces moments convenables. Dans le temps convenable. Le mot est presque bizarre. Le temps convenable, c'est quoi? C'est le moment tragique de la tentation. Mais la Bible appelle cela le temps convenable. Et qu'est-ce que c'est? En quoi est-il convenable? En quoi le temps peut-il être convenable? C'est le temps. Le temps est toujours convenable pour venir à lui, mais le temps qui est le meilleur et qui est le plus convenable, c'est avant de céder à la tentation. De telle sorte que nous allions à lui avec confiance afin d'obtenir la miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans le temps convenable. Secouru, sauvé dans la tentation. Est-ce là une vérité salvatrice? Que Jésus a été fait chair et a été fait dans la chair de péché. Est-ce une vérité salvatrice? Qu'il peut compatir à nos infirmités? Est-ce que je le crois ou est-ce que je le crois? Il y a deux degrés. Il y a le degré froid, il y a le degré tiède et il y a le degré de foi. Il y a le degré où j'ai la foi. Mais nous allons continuer parce que, quelle foi? Est-ce que j'ai ma foi en lui? Quelle est la foi que j'ai? Ma foi en Jésus ne suffira pas pour me secourir dans le temps convenable. Parce que ma foi en Jésus, elle ne vaut rien. Elle ne vaut rien. Vous pouvez avoir la foi en Jésus tant que vous voulez. Ça ne vous donnera pas la victoire. Il me faut avoir une foi dont il est l'auteur. Nous sommes ici en train de contempler pour être transformés de gloire en gloire comme par l'Esprit du Seigneur. Par l'Esprit, seul l'Esprit peut faire cela, mais il nous faut contempler. Et contempler, cela requiert une activité délibérée. Et alors que nous le faisons maintenant, nous réalisons que nous voyons Jésus, n'est-ce pas? Parce que Jésus est dans la parole. Mais vous remarquerez que Jésus n'est dans la parole que lorsque nous laissons la parole se révéler à nous telle qu'elle est. Sans essayer de rendre la parole sensationnelle, sans essayer de la faire satisfaire nos attentes. Mais si je réalise que l'attente de Dieu, c'est de me rendre parfait, c'est d'être pour moi le salut, l'auteur du salut éternel, eh bien, je recevrai et j'écouterai la parole de Dieu et Dieu sera en mesure de nous parler puissamment, puissamment de manière salvatrice, à travers sa vérité. Parce que Jésus a dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Et il continuait pour vraiment clarifier à tous les esprits à travers la terre que, mais tu ne les sanctifieras pas simplement par des croyances purement doctrinales, parce que moi, je me sanctifie moi-même par la vérité, pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Et ensuite, une autre déclaration de l'Esprit de prophétie dans le commentaire biblique à la page 1683. Pour réitérer ces choses, mais par les paroles de l'inspiration. Christ quitta les parvis royaux du ciel et vint dans notre monde afin de représenter le caractère de son Père et ainsi aider l'humanité à lui redevenir fidèle. L'image de Satan était inscrite sur les hommes et Christ vint leur donner le pouvoir et l'efficacité morale. Il vint tel un enfant impuissant portant la même humanité que nous. Ensuite, elle cite Hébreux chapitre 2. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas lu, on va s'y tourner maintenant. Hébreux chapitre 2, à partir du verset 10. En effet, il était convenable que celui pour qui et par qui sont toutes choses, voulant amener à la gloire plusieurs enfants, rendit parfait le prince de leur salut par les souffrances. Car tous, et celui qui sanctifie, et ceux qui sont sanctifiés, relèvent d'un seul. C'est pourquoi il n'a point honte de les appeler frères. En disant, j'annoncerai ton nom à mes frères. Je te chanterai des louanges au milieu de l'assemblée. Et encore, je me confierai en lui. Et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Et qu'est-ce qu'il a fait pour ses enfants que Dieu voulait amener à la gloire à travers lui? Verset 14. Puisse donc que les enfants participent de la chair et du sang, il en a aussi de même participé, afin que par la mort, il détruisît celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie assujettis à la servitude. Car assurément, il n'a pas secouru les anges, mais il a secouru la postérité d'Abraham. C'est pourquoi il a fallu qu'il devint semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans les choses de Dieu pour expier les péchés du peuple, car ayant été tenté dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Est-ce que Jésus a une nature humaine tellement semblable à la nôtre qu'il n'y a aucune différence entre mon expérience dans la chair et son expérience dans la chair, mis à part le fait qu'il a été tenté je ne sais combien de fois plus que moi? Vous le voyez ici. Puisque nous participions à la chair et au sang, et tout ce que cela veut dire, lui, il a aussi décidé, en accord avec les deux autres personnes de la divinité, de prendre sa place parmi les hommes et d'assumer la nature humaine pécheresse. Il en a aussi de même participé. Il a participé à cette nature, à cette expérience dans la chair que nous faisons, en tant qu'être humain déchu, en tant qu'enfant déchu d'Adam. Il en a de même participé, afin que par la mort, il détruisît celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Et qu'est-ce que c'est la mort? Le salaire du péché, qu'est-ce que c'est? C'est la mort. Et il a fait cela afin qu'il délivrât tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie assujettis à la servitude. Esclaves, comme nous l'avons lu avant. Il est venu pour nous affranchir, pour que, par cette vérité, de son expérience de purification et de sanctification dans la chair, nous puissions être affranchis, afin qu'il puisse nous délivrer qui étions toute notre vie assujettis à la servitude à cause de la crainte de la mort, à cause de notre servitude au péché. Parce qu'il n'a pas secouru les anges, ce qui est écrit. Car assurément, il n'a pas secouru les anges. Il n'est pas venu pour sauver les anges, parce que les anges étaient au-delà du salut. Ils avaient dépassé la limite au-delà de laquelle ils n'étaient plus accessibles par la grâce. Ils avaient terminé leur temps de grâce. Alors que nous sommes encore aujourd'hui dans notre temps de grâce. Mais il n'est pas venu pour secourir les anges, il est venu pour secourir qui? La postérité d'Abraham. Secourir. Afin de que nous obtenions miséricorde et que nous trouvions grâce en allant avec confiance au trône de la grâce où il officie. En tant que souverain sacrificateur miséricordieux. C'est pourquoi il a fallu qu'il devint semblable en toute chose à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans les choses de Dieu. Pourquoi? Pour expier les péchés du peuple. J'ai toujours lu ces choses comme une référence à son sacrifice sur la croix. Mais ici, vous avez quelque chose de complètement différent. et particulier. Parce que nous vivons, nous savons, au temps du jugement investigatif, n'est-ce pas? Depuis le 22 octobre 1844, lorsque la purification du sanctuaire céleste a commencé. Et Jésus s'est déplacé dans le lieu très saint du sanctuaire dans le ciel. Et ici, nous lisons qu'il a fait toutes ces choses, il a souffert toutes ces choses, il a été ainsi rendu parfait par les souffrances, ayant été tenté en toutes choses comme nous, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans les choses de Dieu et pour expier les péchés du peuple. Expier d'une manière tellement vivante et active que il expie nos péchés par une relation individuelle et présente et constante qui nous permet d'être purifiés de nos péchés et qui lui permet d'expier nos péchés et d'en laver, d'en purifier le sanctuaire. Telle est l'activité du jugement des vivants. Le jugement de mort, c'est passé déjà. Nous sommes aujourd'hui au jugement des vivants près de la fin de toute chose. Et nous lisons ici au sujet de Jésus qu'il a été fait ce souverain sacrificateur-là en résultat de son activité dans la chair de péché. Et que pouvant compatir avec mes infirmités, il invite maintenant ma confiance pour venir à lui et être secouru du péché dans le temps convenable, pour qu'il puisse expier mes péchés de manière instantanée, pour ainsi dire, de manière directe et, comme ils disent en anglais, de manière live. Nous sommes ici dans un enregistrement live où Jésus nous appelle à chercher auprès de lui ce secours par lequel nous échapperons à la tentation et nous sortirons vainqueurs. Et si nous lisons maintenant dans Hébreux chapitre 12, versets 1 à 4. Ainsi donc, nous aussi étant environnés d'une si grande nuée de témoins de l'univers du ciel et des hommes sur la terre et des anges autour de la terre, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe aisément, courons avec constance dans l'arène qui nous est ouverte, regardant à Jésus, le chef, ou comme c'est écrit dans la King James, l'auteur et le consommateur de la foi, qui, à cause de la joie qui lui était proposée, a souffert la croix, méprisant l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. C'est pourquoi considérez celui qui a souffert de la part des pécheurs une si grande contradiction, afin que vous ne succombiez pas en laissant défaillir vos âmes. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché. Voilà notre appel, frères et sœurs. Alors que nous vivons dans ces derniers instants, Dieu suscite nos meilleures affections et nos meilleurs sentiments à la vue de ce que Jésus a fait et fait maintenant pour nous. Il a fait cela. Il a assumé l'humanité pour qu'il puisse être maintenant ce souverain sacrificateur qui invite ma confiance et qui invite quoi? Ma foi, parce qu'il est l'auteur et le consommateur de la foi. L'auteur est le consommateur de notre foi. Et c'est en regardant à Jésus que nous pourrons courir avec constance dans l'arène qui nous est ouverte et rejeter tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si aisément. C'est pourquoi considérez celui qui a souffert de la part des pécheurs une si grande contradiction afin que vous ne succombiez pas en laissant défaillir vos âmes. Ne pas succomber, nous pourrons le faire si nous considérons ce Jésus. Si nous considérons et que nous implorons Dieu de nous remettre ces choses en mémoire. Et il nous incombe également de faire un effort personnel et délibéré pour nous rappeler nous-mêmes de ces choses. Et à mesure que nous faisons cela, frères et sœurs, il est l'auteur de la foi qu'il nous faut avoir pour vaincre comme il a vaincu et pour s'asseoir avec lui sur son trône comme il s'est assis avec le Père sur son trône. C'est ma prière que l'on puisse faire cela et nous donner sans réserve à Jésus pour qu'il puisse expier nos péchés et nous préparer pour son retour. Amen.